bon après-midi tout le monde. Merci, Justin, d'avoir pensé à moi. Donc là, comme vous allez voir, le titre de la présentation est en anglais, puis les diapos sont en anglais, mais en essayant de lancer une nouvelle norme ici, je ferai la présentation en français. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par après, dans la période des questions, de poser des questions. Donc là, comme mon collègue vient de dire, moi je travaille beaucoup sur les alliances militaires. Ce qui m'intéresse depuis quelques années, c'est cette idée que, on a plusieurs types de coopération quand on parle de la sécurité et de la défense. Ce qu'on tous connaît, c'est ce qui est les accords formels, comme l'OTAN, les gros traités. Ce que moi, je le divise de façon que ces gens, les accords qui doivent avoir une approbation de la législature. Ce qu'on va trouver qui est assez important lorsqu'on parle de la coopération contemporaine. Il y a également ce que j'appelle les accords de coalition, donc les alignements plus ad hoc, ça veut dire pour un court terme. Et dernièrement, on a ce que j'appelle le coopération informelle à la défense. Et donc, pour essayer de comprendre comment on peut catégoriser ce genre de coopération, là, j'ai sorti un ensemble des critères sur lesquels on peut comparer ces genres de coopération. Ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, on voit, il y a beaucoup de gens qui font des études sur les alliances militaires. On a beaucoup de bonnes banques de données sur les alliances militaires. Mais ce qui est l'activité de la coopération en matière de la défense depuis au moins 10-15 ans, c'est surtout ce genre de coopération informelle. Et donc là, ça devrait nous intéresser. Et moi, je prends l'approche de Rational Institutional Design, donc ce qui est proche par Barb Corminos et ses collègues également, qui est écrit par Ashley Leeds. Et donc là, ce que moi, je regarde dans ces accords-là, les aspects qui sont tellement importants comme la délégation, les obligations, puis les provisions qui sont à l'intérieur de ces accords-là. Donc, ce qu'on pourrait regarder, c'est surtout les partenaires, donc l'adhésion, la portée des enjeux, si l'accord en soi a une certaine centralisation, les règles et également la flexibilité. Et tout derrière ça, c'est l'idée que chaque type de coopération vise à contrôler ce qu'on appelle des problèmes stratégiques. Donc, les problèmes stratégiques sont assez connus pour ceux qui suivent la recherche de Corminos et al. Mais moi, je parle beaucoup plus de l'idée des il y a les 5 problèmes stratégiques. Donc, le problème d'engagement, le problème de mise en vigueur, le problème d'incertitude par rapport à l'état du monde, incertitude par rapport à la distribution des coûts et bénéfices de la coopération et l'incertitude par rapport aux préférences. Donc, chacune des accords sont vraiment destiné d'une façon de faire gérer ces problèmes stratégiques. Et c'est à nous d'essayer d'un peu décoder tout ce qui est dedans ces accords-là. Donc là, j'ai dit post-mortem sur les traités d'alliance parce que, dans le fond, depuis presque 20 ans, il n'y a pas de nouvelle alliance formelle de défense. On est encore dans la donne avec l'OTAN, avec l'Union européenne, c'est les alliances qui existent, qui sont bonnes, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas des émergences des nouvelles alliances. Et la question, pourquoi, est un peu, avant, on a tous, il y a plusieurs qui ont évoqué l'idée que, dans le fond, pour ce qui est des gens qui veulent coopérer avec les Américains, le problème, c'est le Congrès américain. On a évoqué l'idée avec le Keystone Pipeline, avec le TPP. Donc, dans le fond, lorsqu'on entre le Congrès américain dans le donne, ça rend tout plus compliqué. Ce qu'on voit depuis les dernières 20 ans, c'est que l'exécutif américain de plus en plus aller vers les gens de coopération qui est informel, qui n'exige pas l'approbation de la législature. Donc, encore une fois, on peut diviser, comprendre les alliances de défense de façon plus systématique et prendre en compte les joueurs, la portée, le mandat, les obligations. Et la raison pour laquelle je pense qu'on voit de moins, en fait, qu'il n'y a pas de nouvelles alliances de défense qui s'est émergée depuis les dernières décennies, c'est dans le fond les coûts de négociation. Parce qu'à la fois, c'est la négociation à l'échelle internationale, mais aussi à l'interne. Et lorsqu'on revient à l'interne pour l'approbation, pour la ratification, c'est là où on a de la difficulté, dans le fond. En plus, on sait tous les risques qui sont associés avec entrapment, abandonment. Donc, il y a des gens ici qui parlent un peu de comment le Canada devraient s'engager dans diverses actions de l'OTAN. C'est un peu cette idée d'entrapment. Les coûts de la coordination, aussi l'idée que de quitter, c'est très coûteux. Et lorsque je parle de la coopération informelle, de quitter la coopération est beaucoup moins coûteuse. Et en plus, les coûts de révision. Ce qu'on voit, c'est que d'habitude, il n'y a pas vraiment une réouverture des traités. Une fois que c'est signé, c'est done. On ne revient pas. Et ce qu'on peut faire avec ce genre de coopération informelle qui m'intéresse, c'est qu'il y a des moyens de réviser. Et on va voir que c'est tellement important, cette flexibilité. Et donc là, comme j'ai dit, les alignements qui sont en plus pour une durée limitée. Donc on voit les exemples ici, les guerres de Golfe, la guerre en Afghanistan, ISIL. Toutes ces genres de coordination militaire se passent à travers ce qui sont les alignements en plus à court terme, qui ont encore une portée qui est illimitée. Encore, la délégation, ça c'est une chose qui est un peu importante aussi, c'est que la délégation à l'intérieur de ces accords-là sont très, très, très limitées, très pointues. Les obligations ne sont pas mutuelles, qui est une autre chose qui est un peu dans la dent, parce que quand on parle des alliances de défense, les compacts alliances de défense, la majorité du temps, c'est les obligations qui sont mutuelles. Et en plus, les coûts de sortie sont beaucoup moins que dans les traités formels. Donc, peut-être vous vous posez la question, vous demandez c'est quoi, est-ce que parle de quoi, ces genres de coopération informelle. C'est surtout les formes ici que je note. Donc, memorandums of understanding, exchanges of notes, of diplomatic notes, agreements. Tout ça que je mets ensemble qui est genre les accords qui sont sous le pouvoir exécutif. Donc, ça veut dire que c'est les accords qui, c'est l'exécutif qui donne le pouvoir de négociation au ministère d'aller négocier. Puis à la limite, dans le fond, la majorité du temps, c'est, en fond, c'est un ministère des Affaires étrangères qui va signer ces documents. Ce n'est même pas le président en soi quand vous lisez les documents. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec ce genre de coopération, il y a une façon de créer une sorte de coopération à la long terme et même de produire des biens de sécurité, des biens de défense. Vous me demandez c'est quoi ce bien de défense. Mais l'exemple que tout le monde va connaître dans la salle, c'est le NORAD. Le NORAD, c'est exactement ce genre de coopération. Tout ce qui est le NAVSTAR, exactement le même genre de coopération. Le Eurofighter, c'est ça. Donc, l'avenir de la coopération militaire est ce type de coopération. On n'est plus dans le domaine de créer des grandes alliances. On fait la coopération plus informelle. Et donc, ce que je vois, les tendances que je vois dans ce que je faisais dans ma recherche, c'est que presque tout le temps qu'on voit ce genre de coopération, c'est entre les partenaires qui n'ont pas besoin de... qui ont déjà résolu le problème d'engagement. Donc, c'est entre les partenaires qui ont une certaine crédibilité, fiabilité comme point de départ. Donc là, ils visent à gérer d'autres problèmes stratégiques que l'engagement. Alors, comme j'ai dit, là, c'est surtout l'incertitude à l'état du monde de l'avenir. Lorsqu'on parle de la coopération, de défense, ça, c'est toute l'incertitude. Et donc, dans ces accords-là, on voit certaines clauses, provisions qui indiquent une certaine flexibilité. Flexibilité, des clauses d'amendement, des clauses de révision, renouvellement, des clauses de une étape peut se retirer avec une période d'avis. Donc, une certaine façon qui est flexible, qui laisse l'accord d'adapter à une nouvelle ère stratégique. Et comme j'ai dit là, l'important c'est surtout la préparation de ces genres de coopération. Je vais vous montrer des données dans quelques minutes. Et dans le fond, il y a peu de données systématiques sur ce genre de coopération. Dans le cas des Canada et États-Unis, il y en a beaucoup des accords. Moi, j'ai ramassé une banque de données qui a plus que presque 5 cas de coopération de défense militaire. Donc là, je parle ici de des accords très précis, comme la sécurité mutuelle, l'assistance à la défense, l'acquisition militaire. Donc vraiment des choses qui sont clés à la défense, mais qui sont des accords qui sont souvent oubliés lorsqu'on parle de la coopération militaire entre les États. Et le plus récent qu'on voit, c'est les accords entre les États-Unis et l'Afghanistan et l'accord des États-Unis et le Japon. Ça, c'est le plus récent exemple. Lorsqu'on voit ici, c'est Julie Kavanaugh de RAND à la RIMA. C'est tout ce qui est à la fois ensemble les traités formels, donc ça inclut également les traités formels, mais aussi les accords de défense et sécurité qui ont été signés par les États-Unis depuis 1955. Alors, vous voyez très clairement qu'à la fin de la guerre froide, il y avait un pic assez large, ce qui est l'émergence de la période post-guerre froide. Et surtout, on voit qu'il y a une hausse de la coopération bilatérale. Et donc, juste pour vous donner une idée, le taux par année, c'est à peu près 5 accords par année que les États-Unis vont signer, qui est de coopération informelle. Évidemment, les gros partenaires sont en Europe. Le Canada est le deuxième partenaire dans ce genre de coopération après le Royaume-Uni. Donc, le Canada est vraiment dans le domaine de ce type de coopération. Et il faut noter que pendant la période après la guerre froide, que le numéro des engagements des États-Unis ont doublé de cette façon. Donc, on parle d'une émergence assez importante qui n'est pas vraiment étudiée. Et les sujets des accords multilatéraux sont surtout des garanties d'accès à des territoires et l'opérationnel. Et lorsqu'on parle de bilatéral, c'est surtout les matériels, donc ce qui a du sens selon ce que je faisais à mes recherches. Donc ici, vous voyez la distribution avec les commandements. Donc c'est sûr qu'avec l'Europe, on voit que c'est la majorité des accords bilatéraux se trouvent avec l'Europe, ce qui n'est pas une surprise. Donc, en revenant au sujet aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine flexibilité, pragmatisme de ce genre de coopération. On voit que c'est une émergence de part des États-Unis. Ça aide beaucoup avec les problèmes de mise en vigueur. Et ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est que ça peut créer une sorte de coopération qui est très importante. Il n'y a personne dans la salle qui va douter l'importance de NORAD pour la défense aérienne d'Amérique du Nord. Mais c'est le genre de coopération qu'on n'a pas étudié de façon comparative avec les autres types de coopérations qui sont semblables. Donc, moi, cette idée de pour les États dans l'avenir va aller plus vers ce type de coopération parce que, dans le fond, ça facilite la capacité de coopérer lorsqu'il est vraiment autour de la législature. Donc, évidemment, lorsqu'on parle du Canada, il y a d'autres dans la salle déjà qui ont évoqué l'idée que est-ce qu'on continue avec une idée de la polarité qui se base sur la puissance militaire? Oui. Et donc là, est-ce qu'on devrait considérer plus la puissance énergétique, économique, sorte l'influence politique sociale? Pour ce qui est l'acquisition à la défense du Canada, c'est sûr que depuis des années, les Canadiens ont suivi, ont acheté presque toutes des États-Unis pour plusieurs raisons. Mais je pense qu'on est un peu à un bon moment d'aller chercher et diversifier les partenaires de défense de beaucoup. Il y a des opportunités qui sont disponibles en Europe. Je pense que le Canada pourrait bénéficier. Et donc là, l'idée, c'est que, dans le fond, on sait tout le monde que les effectifs dans le militaire au Canada, on est assez limité. Donc là, il faut qu'on prenne des décisions qui sont intelligentes lorsqu'on veut, lorsqu'on fait des déploiements. Et ce que moi, je vois surtout en faisant le tour de ce genre de coopération, c'est que depuis les derniers 10 ans, surtout au Canada, on a mis l'accent beaucoup sur l'Europe, mais on fait ça à la risque en Afrique. Et surtout, la Chine, depuis les dernières 10 ans, a signé un énorme amount de ce genre d'accords de défense, d'infrastructure en Afrique, et étant donné que c'est un peu peut-être le zone de conflit de soft balancing dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte. Aussi l'idée l'OTAN, oui. L'OTAN, les engagements dans l'OTAN, faut que. Je ne veux pas dire qu'il faut que le Canada remette en question leur participation dans l'OTAN, mais il faut qu'ils prennent en compte le fait que, comme les effectifs sont limités, les ressources sont limitées, le plus qu'on engage avec l'OTAN, le moins qu'il y a de faire d'autres choses. Ça, c'est juste l'état du monde. Et la question de ISIL, là, le fait que c'est une genre de. L'avenir, on ne sait pas, ce n'est pas basé dans les États. Dernièrement, les déclencheurs, qui peuvent également être vus comme des opportunités, c'est la façon de percevoir le monde. Encore l'idée de l'économie, l'énergie, oui, les mécanismes, à la fois d'utiliser les mécanismes qui existent, d'engager avec la Russie et la Chine, et encore de travailler dans les dossiers où le Canada a une certaine crédibilité, influence, comme l'économie, l'énergie, l'environnement avec la Chine surtout. Il y a quelqu'un d'autre qui a déjà évoqué l'idée avec l'Arctique en Russie. Et donc là, pour moi, l'idée pour le Canada d'avoir une certaine influence, il faut aller vers les valeurs qui sont très importantes pour le Canada, où le Canada peut avoir une influence. Et donc là, en faisant ça, il va y avoir des ouvertures, des complémentarités envers la défense. Mais allez-y d'abord vers les valeurs qui viennent. Merci.
C'est